France Culture. Question du soir. Marguerite Caton.
Bienvenue dans Question du soir, votre émission de discussion et de débat en direct tous les jours jusqu'à 19h. Aujourd'hui, une question. Le vêtement made in China est-il éthique ? C'est une marque qui, en 10 ans, s'est imposée comme le champion de la mode. Shine ou Shein, selon les prononciations, symbole de ce qu'on nomme l'ultra fast fashion, est aujourd'hui le premier vendeur de vêtements de France. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de remonter le flux des millions de colis jusqu'à la Chine, d'aller au plus près des ateliers textiles pour comprendre comment des prix si bas, de 13 euros par article en moyenne, peuvent être pratiqués, comprendre l'organisation de la production et les conditions de travail, d'autant qu'à la fin du mois de juillet, deux ONG ont publié un rapport très critique sur Chine intitulé « Mode jetable, exploitation durable ». Cela nous permettra aussi de vérifier si l'industrie manufacturière à bas coût reste le moteur du développement économique chinois malgré des décennies de croissance et d'enrichissement. Trois invités pour en discuter. Isabelle Thirault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS, directrice de recherche au CNRS. Je cite votre dernier ouvrage, « Des lieux en commun, une ethnographie des rassemblements publics en Chine ». C'était aux éditions de l'EHESS. À vos côtés, un économiste, Franck Marsal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez coécrit le livre « Quand la France s'éveillera à la Chine », paru aux éditions d'Elga, c'était en mai 2025. Et enfin, à distance, Gilles Guilleux, sociologue vous aussi, professeur à l'Université Paris-Cité. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre dernier ouvrage, « Quand la Chine parle », est paru en 2025 aux éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette invitation.
J'irai bosser deux jours en atelier. Je prends ma paye, je bosse deux jours et je rentre au pays. Ma femme me manque. Je reviendrai après. Ce soir, je prends ma paye, puis je rentre chez moi. Je suis battu dans cet atelier. On ne me paye pas, je gagne rien, pas un rond.
On m'a prévenu. Ils veulent des gens rapides. Je vais essayer deux jours. C'est décidé. Et si ça ne va pas, je rentre chez moi. Si je ne leur conviens pas, ils me renverront au bout de 2-3 jours. Ils ne me garderont pas.
Des témoignages d'ouvriers du textile chinois extraits du documentaire de Wang Bing, Argent amer, c'est sorti en 2016, c'est un tout petit peu ancien. J'aimerais, pour commencer cette émission, que l'on plante le décor du textile chinois géographiquement. Est-ce qu'il existe une région spécialisée ou s'agit-il d'une industrie diffuse sur l'ensemble du territoire, Gilles Guilleux ?
C'est une industrie qui est intensément territorialisée. En fait, il y a deux grands pôles de l'industrie du textile et du prêt-à-porter en Chine. Un espace tout à fait ancien, historiquement ancien, la basse vallée du Yangtze, c'est-à-dire Shanghai, la province au sud, le Zhejiang, dont la capitale est Hangzhou. Région traditionnelle de culture du coton et d'élevage du verre à soie et qui continue à être occupée une grande partie de la main-d'œuvre qui travaille dans l'industrie textile. L'autre région, c'est la région autour de Canton, Guangzhou en chinois, dont le développement est beaucoup plus récent, lié à la politique de réforme et d'ouverture des années 80 et qui est lié à la délocalisation massive de l'industrie du textile venue de Hong Kong, où elle a complètement disparu, et de Taïwan, où elle a également complètement disparu. Ces deux régions, Shanghai, Canton, sont des régions où les territoires sont spécialisés. On a des villages ou des agglomérations de territoires qui produisent pour les uns des vêtements d'hommes, pour les autres des vêtements de femmes, pour les autres des vêtements d'enfants. Et donc vous citez le film de Wang Bing pour commencer l'émission. Wang Bing a travaillé sur Huzhou dans le Zhejiang, qui est en particulier connu pour son quartier de production de vêtements d'enfants. Donc une industrie qui est à la fois extrêmement mondialisée, la Chine est le premier exportateur mondial de textiles et de vêtements. Au début des années 2020, c'est 40% des exportations mondiales de vêtements qui proviennent de Chine, mais en fait une industrie qui est ancrée dans des territoires et dans des écosystèmes où il y a tout ce dont les entreprises ont besoin, l'approvisionnement et les canaux de distribution vers les consommateurs chinois ou vers les consommateurs du reste du monde.
Et c'est à Canton, donc dans la région au développement plus récent que Chine s'est établie, au sud de la Chine, vous l'avez dit, tout près de Hong Kong. Franck Marsal, est-ce que c'est une position qui est favorable à l'apport de capitaux étrangers? Je vous pose la question parce que Chine n'est pas à l'origine une entreprise 100% chinoise.
À l'origine, si. Par contre, elle a un petit peu quitté la Chine. Elle a un petit peu quitté la Chine. Son fondateur a pris, c'est pas grand-chose sur lui, il est assez secret, mais il semble avoir pris la nationalité et singapourienne et américaine. On dit qu'il vit fréquemment en Californie. Et le siège social de Shine ou Shein aujourd'hui est à Singapour.
Voilà, ce qui comme est nombre question. De multinationales
cette
chinoises.
Cette société d'ailleurs. Ne distribue pas en Chine d'ailleurs. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, puisque vous faites la question un peu de l'industrie textile et la modernisation de la Chine, c'est que cette entreprise n'est pas qu'une entreprise de textile. D'abord, elle sous-traite la production. Elle se concentre sur deux choses essentielles, qui sont d'une part la conception. Parce que c'est production de modèles très très rapide pour intéresser le consommateur, voilà. Et puis surtout, c'est une énorme maîtrise de la logistique. C'est-à-dire, c'est commande en ligne, fabrication sur demande et envoi dans des délais très très courts. Donc il y a en fait une énorme maîtrise technologique, mais sur le plan, c'est presque à ce moment-là, on est plus sur le terrain d'Amazon en fait.
Et pour cette question de la logistique,
de Zara et d'Amazon.
Pour cette question de la logistique, est-ce que cette localisation sur les côtes, près de Hong Kong, sert l'entreprise? Pourtant, on dit que normalement, elle distribue en avion. Donc, il n'y a pas spécialement d'importance à être sur la côte.
Non, mais c'est comme ça que la Chine a aussi construit son industrialisation. C'est-à-dire que les côtes étaient favorables au commerce. Et ça, c'est une constante dans pas mal de tous les mouvements, en fait, des centres industriels de production sont toujours en rapport avec des nœuds logistiques, du commerce maritime. Et donc, la Chine a commencé son développement par ses côtes et puis progressivement, à la fois elle monte en qualité, donc sur le plan technologique, et en même temps elle étend le développement vers l'intérieur. Et puis avec les nouvelles routes de la soie, elle a étendu aussi le développement à l'extérieur de ses frontières.
Plus précisément, si on zoome sur cette région de Canton, Isabelle Thirault, on lit que les ateliers se trouvent dans des villages métropolitains de Canton. Alors cette expression de village métropolitain n'est pas très claire de notre point de vue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, elle revient un peu à la question de la territorialisation qu'évoquait Gilles Guilleux. C'est-à-dire qu'avec l'urbanisation chinoise et l'urbanisation notamment de la ville de Canton, mais c'est valable pour les autres villes chinoises, des villages environnants se sont trouvés peu à peu encerclés par la ville du fait de l'extension du périmètre urbain. Mais en Chine, il y a une grande dualité entre monde rural et monde urbain. Et notamment au sein du monde rural, les villages ont la propriété des terres collectives, alors que tout ce qui relève du monde urbain, c'est l'État qui a la propriété de la terre. Donc on s'est trouvé avec ces enclaves. Dans le rapport que vous citiez, il est dit qu'il y a 139 villages urbains à Canton, mais le chiffre est dépassé, il y en a 272. Et donc il faut imaginer ces villages qui relèvent d'une administration, qui jouissent d'une certaine autonomie, qui ne s'urbanisent pas, ou qui n'intègrent pas la ville comme institution administrative, politique, mais qui restent des villages. Les paysans qui y vivent continuent à être propriétaires de la terre. Et du coup, je dirais que la ville ne peut pas complètement faire autorité au sein de ces villages. Ce qui a permis à ces villages de créer des coopératives. Et peu à peu, comme le village dont il est fait état dans le rapport, le village de Kangle, qui a su tout d'abord les paysans locaux ont développé un marché textile, justement du fait de la proximité de Hong Kong et du fait que des confections, des ateliers de confection se déplaçaient de Hong Kong en Chine. Puis, au sein de ce village, 1300 habitants et aujourd'hui 130 000 travailleurs extérieurs, ils ont développé également des ateliers. Donc, ces villages urbains jouissent d'une certaine autonomie, encore une fois, par rapport aux autorités municipales. Ils peuvent construire des édifices pour faire des logements pour les migrants, ils peuvent créer des ateliers, ils ont eu une marge, je dirais, de manœuvre dont ils ont su tirer profit pour créer toutes sortes d'ateliers.
Et sous l'aspect du paysage, alors on comprend donc que ce sont des villages, mais ce ne sont pas pour autant... c'est pour autant très dense. Donc est-ce que sous l'aspect du paysage, ça a toutes les caractéristiques de la ville ?
C'est-à-dire qu'on ne construit pas de grands gratte-ciel ou de grands immeubles dans ces villages urbains. On construit... les paysans locaux vont... créer une densité de population très importante en créant toutes sortes de bâtiments de trois étages dans les cours, dans les arrière-cours. C'est un dédale un tout petit peu de bâtiments, de ruelles, pour tout simplement parce que il faut comprendre que les personnes qui habitent dans ces villages, qui en sont originaires, leurs terres, ils vont en être expropriés. Ce ne sont plus des paysans, ce ne sont plus des agriculteurs. Comment gagner leur vie ? C'est en créant des bâtiments et en louant ces bâtiments à des travailleurs migrants, puis peu à peu, eux-mêmes, en créant des ateliers. Donc, c'est effectivement un écosystème tout à fait particulier. Et quand on regarde des vues aériennes de Canton, on voit tout de suite où se trouvent les villages urbains.
Gilles Guilleux, sur cette organisation très particulière de ces villages métropolitains ou urbains.
Oui, en fait, je voulais réagir sur le fait que... en fait, l'industrie du prêt-à-porter et du textile en Chine, il y a plusieurs écosystèmes. Donc, ce dont on va parler ce soir, en particulier donc les entreprises qui approvisionnent Shein et qui fabriquent en sous-traitance pour Shein, qui, comme l'a dit notre collègue, n'est pas une entreprise de prêt-à-porter, c'est une entreprise d'informatique, hein. C'est logistique et conception. Elle est créée par des informaticiens. Mais à côté de ces ateliers, il y a quand même une histoire de la production dans de grands établissements industriels qui emploient 1000, 2000, 3000 ouvriers. On a tous en tête ces photos de gens qui travaillent à la chaîne dans des immenses espaces. Et c'est ces usines-là qui sont pour partie, devant la hausse des coûts de production, des salaires et du foncier, se sont délocalisés en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, ou même sur le continent africain. Donc, ce qui, la mondialisation de l'industrie du prêt-à-porter en Chine, c'est pas que l'exportation depuis la Chine vers le reste du monde, c'est aussi des industriels qui délocalisent leur industrie à bas coût, puisque c'est le sujet de l'émission de ce soir, dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et corvéable à merci.
Pour en rester à Chine, donc dans cette zone très particulière autour de Canton, enfin entre les différents espaces de Canton, si on s'intéresse un peu aux travailleurs qui peuplent ces zones, qui sont-ils, Isabelle Thiraud, principalement, si j'ai bien compris, et c'est ce qu'on entend un peu dans le documentaire de Wang Bing dont on a diffusé un extrait, des travailleurs qui viennent des zones rurales intérieures et qui cherchent travail, il y a des migrations même pendulaires, comment c'est organisé ?
Voilà, ce sont essentiellement effectivement des travailleurs migrants. Pour ce qui est, par exemple, des villages dont il est fait état dans le rapport, les villages de Kangle, de Lutiang, ce sont essentiellement des travailleurs qui viennent de la province du Hubei, près de la ville de Wuhan. Ce sont des personnes qui sont très mobiles, donc qui viennent pour plus ou moins longtemps. Il faut, à ce propos, peut-être rappeler très rapidement aux auditeurs que ce système dual urbain-rural en Chine, il touche chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu dispose d'un livret de résidence en Chine qui est ou rural ou urbain. S'il est urbain, il va profiter d'avantages sociaux, il est plus lié à l'État et il va voilà, encore une fois, bénéficier de différents avantages sociaux qui sont n'existent pas tout simplement pour ceux qui ont un permis de résidence rurale. Ce livret de résidence comporte également une autre indication, quel est le lieu de domiciliation officiel. Et à partir du moment où vous travaillez ailleurs que là où vous êtes officiellement domicilié, vous n'avez pas le droit, vous ne partagez pas les mêmes droits avec la population locale. Donc, ces travailleurs migrants qui arrivent, ils arrivent dans les années 90, ils arrivent notamment donc à Kangle et à Lutiang, et ils vont dans un premier temps devenir un peu maraîchers, ils vont devenir bouchers, et puis la ville de Canton va estimer que le marché devient insalubre, va les transporter, déplacer ailleurs, et ces travailleurs migrants, mais également des paysans de ces deux villages, originaires de ces deux villages, vont créer ces ateliers. Et ces ateliers, j'ai envie de dire, il en existe effectivement dans d'autres régions, comme le disait Gilles Guilleux, près de Shanghai, à Huzhou, etc. Mais ils travaillent avec un modèle économique particulier qui s'appelle en Chine petite commande, livraison rapide. Ça veut dire que ce sont des petits ateliers qui embauchent cette main-d'œuvre rurale. La plupart des emplois sont à la pièce. Et je dirais que la confection du prêt-à-porter en Chine, ayant connu un certain boom pour la consommation intérieure dans les années 2000-2010, on est payé à la pièce, mais dans les années 2000-2010, il y avait un pouvoir de négociation un peu entre ces travailleurs migrants et les responsables d'ateliers. Parce qu'on cherchait à fidéliser les travailleurs, on cherchait ceux qui étaient les plus rapides, les plus habiles. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Shein, c'est qu'ils ont en quelque sorte tiré profit du fait que la consommation intérieure, du fait des difficultés économiques en Chine, a beaucoup baissé à partir du milieu des années 2015. Beaucoup d'ateliers, beaucoup de ces petites entreprises ont fermé. Et beaucoup nous disent aujourd'hui à Kangle et à Lutiang, quand Shein est arrivé en disant « on rassemble nos forces uniquement pour exporter », c'est-à-dire que là où il y avait ce que les petits entrepreneurs appellent en Chine un phénomène d'involution, c'est-à-dire que lorsqu'ils se battaient pour la consommation intérieure, pour la production de confection en Chine, avec la diminution de la consommation intérieure, tous les mauvais coups étaient possibles. Il y avait une sorte de situation où on n'avait plus en foi du tout en la parole des uns et des autres. Beaucoup d'ateliers ont fermé et Shein a proposé une voie pour ces ateliers en leur disant on ne parle plus de consommation intérieure, on se tourne vers la grande mer extérieure, ça veut dire vers l'étranger, mais on tire parti du côté extrêmement réactif mais qui implique de très longues heures de travail, on reviendra là-dessus tout à l'heure, de très longues heures de travail, et surtout ce qu'a fait Shein, c'est qu'il a acquis une sorte de monopole sur les ateliers dans ces deux villages, qui sont dans l'impossibilité de négocier avec Shein. Shein a beaucoup abaissé les marges possibles, et du coup, les petits patrons de ces ateliers proposent des prix à la pièce qui impliquent des heures de travail de plus en plus longues pour avoir un revenu décent.
On va revenir à cette organisation générale du travail de Shein et puis aux conditions de travail des ouvriers. Un mot quand même, Gilles Guilleux, sur ces travailleurs ruraux migrants. On aperçoit aussi une organisation familiale derrière ces ateliers de production. Et il y a un concept dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est celui des enfants. Enfants laissés derrière, je crois que c'est une expression consacrée en Chine, si vous pouvez nous en dire un mot.
Oui, non, les enfants laissés derrière, c'est cette expression qui désigne la progéniture de ces familles, de ces jeunes gens, de ces jeunes parents qui quittent les campagnes et qui viennent chercher du travail en ville, de sorte que dans certaines régions de Chine, en particulier dans les villages de montagne ou de moyenne montagne, où on vit très mal de l'agriculture, quand on se rend dans ces villages, on croise des personnes âgées et des tout petits enfants, puisque les personnes en âge d'être en activité sont parties chercher du travail en ville. Oui, un mode d'organisation familiale ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une espèce de contradiction. Enfin, il y a une tension au sein du marché du travail chinois, c'est-à-dire que d'une part, il y a un flux de gens qui arrivent, qui cherchent du travail dans les villes, mais en même temps, les plus jeunes générations n'ont nullement l'intention de faire toute leur vie ce travail exténuant et au degré d'exploitation est très élevé. Et on en trouve un indice dans le fait que quand on discute et quand on fait des entretiens avec les ouvriers qui ont des enfants, ils dépensent une grande partie de leurs ressources dans l'éducation de leurs enfants parce qu'ils veulent à tout prix que leurs enfants échappent au sort qui est le leur.
On a dit qu'il y avait deux niveaux d'organisation du travail de Shein, qui est une plateforme de distribution en fait. On a par exemple à Shanghai deux filiales qui travaillent sur la conception des produits, le marketing numérique, la gestion des relations avec les influenceurs de TikTok, c'est assez important. Et à Canton, au contraire, on a ces ateliers de fabrication dont Isabelle Thirault a commencé à nous parler, organisés en sous-traitant avec des ateliers de plus en plus petits, de plus en plus informels. Franck Marsal, dans le paysage plus général des entreprises chinoises, en fait, on comprend que Shein est complètement atypique.
Oui et non, parce que en réalité, ça traduit aussi toute l'évolution, moi, je trouve, de ce qu'est la Chine. C'est-à-dire que la Chine, quand elle commence à se développer, ce qu'on inscrit dans le livre, c'est que d'abord, il faut prendre conscience de la pauvreté, de la situation de la Chine au moment où est établie la République populaire en 1948. La Chine est le pays qui a, après l'Union soviétique, le plus souffert de la Première Guerre mondiale. Ils sont à plus de 20 millions de victimes aussi. L'occupation japonaise, les pillages, les massacres, voilà, laisse la Chine complètement exsangue et très peu modernisée, très rurale, etc. etc. La Chine va commencer à se développer pendant une vingtaine d'années, mais le rythme de développement n'est pas suffisant. Donc on a aussi donné des chiffres un peu dans le bouquin. Par exemple, si on compare avec l'Inde, la Chine progresse plus vite que l'Inde, mais comme la population s'accroît, le niveau de vie progresse faiblement. C'est ce qui va amener la Chine à faire cette ouverture en 1900, dans les années 70, Deng Xiaoping, qui a à la fois la légitimité historique et cette volonté d'aller de l'avant, qui dit le socialisme, ça n'est pas la pauvreté. Et donc d'aller chercher les capitaux étrangers, d'aller chercher les technologies, les savoir-faire pour moderniser la Chine en profondeur.
C'est
et
dans ça, cette lignée que s'inscrit Chine, en fait, dans cette
alors,
ouverture de Deng Xiaoping.
En partie, parce que, quelque part, comment va faire la Chine? Elle va démarrer par des industries de main-d'œuvre à faible valeur ajoutée. Ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, le textile, le jouet, le plastique, des petites industries, parce que c'est ça qu'au début, les capitalistes, ce que nous, en termes marxistes, on appelle les impérialistes, cherchent à délocaliser pour abaisser leur coût de production. Donc la Chine va rentrer là-dedans. Et puis, patiemment, très longuement, en éduquant, en investissant, en construisant ses infrastructures, elle va monter dans les chaînes de valeur. Ce qui l'amène aujourd'hui, avec une entreprise comme Huawei, qui amène les États-Unis à prendre des sanctions pour ralentir, pour ne pas être dépassé, en fait. Il faut prendre cette mesure-là. On part de tout en bas de l'échelle des valeurs, et on remonte. Et quelque part, ce que fait Shine, je termine juste là-dessus, c'est de dire... Parce que profiter de la production à bas prix dans le textile, tout le monde l'a fait, d'une certaine manière. Et on avait des entreprises qui se sont... qui possédaient la marque, et la marque avait plus de valeur que la production. Et ce que fait la Chine aujourd'hui, c'est qu'en remontant dans l'échelle de valeur, elle maîtrise la logistique, elle maîtrise les services informatiques, elle maîtrise la marque, et ça lui permet d'accéder à la valeur en réalité et d'encore accélérer son développement.
Donc je comprends que pour vous, l'entreprise Chine n'est pas représentative de l'industrie manufacturière et signalerait une stagnation du développement ou de la croissance, voire un retour en arrière. C'est du côté de la logistique que s'est trouvée l'innovation, et ça reste une entreprise donc très moderne et signe de la modernisation et de la réussite de la modernisation de la Chine, on peut le dire comme ça.
Il y a une partie de ça. Il y a une partie de ça. Après, les modèles, on peut toujours les discuter. Où va le monde aujourd'hui? Ça peut soulever plein de questions. Mais en tout cas, il y a beaucoup de modernité dans ce que fait Chine ou Shine. Oui.
Gilles Guilleux, qu'en pensez-vous?
Oui, je vais abonder dans ce sens. C'est-à-dire que ce qui caractérise la transformation de l'industrie textile et du prêt-à-porter, c'est que la chaîne de valeur est désormais contrôlée. Enfin, l'essentiel de la valeur est créé non pas par celui qui fabrique le produit. Comme on le dit, la concurrence est extrêmement vive, les prix sont tirés vers le bas et il faut toujours produire à moindre coût. La valeur est captée par les gens qui transportent le produit et qui suivent le produit par un code barre du moment où elle sort de l'atelier de production jusqu'au moment où elle est livrée au consommateur. Je veux dire, moi je rentre de Hangzhou où je suis allé voir Alibaba et Alibaba nous a expliqué que leur objectif c'était de livrer toujours plus de produits, toujours plus vite. Et une entreprise purement de haute technologie. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette transformation, elle n'est pas propre à Chine et qui exporte vers le reste du monde. Les entreprises chinoises vendent essentiellement désormais leurs produits, les produits manufacturés, en ligne. Je veux dire, la digitalisation du commerce est extrêmement avancée en Chine. Les nouvelles générations ne vont plus dans les magasins. Ils font leurs achats en ligne, et les producteurs, moi j'ai visité il y a un mois un marché de gros de textiles, ils passent leur journée à mettre les commandes dans des paquets, dans des minuscules paquets, qui partent ensuite, qui sont prises en charge par des sociétés de transport, qui vont dans des centres de prise en charge, et qui sont distribués à l'échelle de tout le pays.
Mais donc, cette digitalisation n'empêche pas quand même ces travailleurs, les mains dans les colis ou les mains dans la machine à coudre, et c'est quand même de leurs conditions de travail dont je voudrais qu'on dise un mot. Écoutez des témoignages qui sont issus d'un reportage réalisé en mai 2024 auprès d'employés de la marque de Chine.
Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h.
Et vous travaillez le week-end ?
Le week-end ? Je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18h.
C'est un travail très fatigant et très long. Ça a l'air simple vu comme ça, mais il y a énormément de choses à vérifier. Ici, c'est le quartier du textile. Ça, c'est l'arbre principal. Tous ceux qui vivent ici travaillent ici. On travaille tous dans les hangars à côté.
Quel type de contrat de travail vous avez ?
Il n'y a pas de contrat. Rien du tout.
Mais si vous tombez malade, c'est à votre charge ?
Oui.
Donc des témoignages issus d'un reportage réalisé en mai 2024, je le disais, auprès d'employés de la marque de... Alors, Isabelle Thiroux, est-ce qu'on peut en finir avec cette
évasion
de prononciation ? Chine, d'accord, très bien. Et ça illustre bien ce témoignage, ce que le rapport publié le 29 juillet par les ONG Action Aid France et China Labor Watch montre aussi. Donc des journées de travail de plus de 10 heures, plus de 12 heures même selon les périodes de l'année. La rémunération qui se fait à la pièce et du coup, il faut compter 11 heures par jour, 6 jours sur 7 pour avoir un bon salaire, ont calculé les ONG. Le rapport décrit une pratique dont j'aimerais bien que vous me disiez un mot, Isabelle Thiroux, celui de l'embauche de couple, pratique dont les patrons sont assez friands parce qu'ils ne payent alors que l'homme et non la femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est possible cette pratique dans ces villages urbains puisque les logements peuvent accueillir une famille. Les familles louent une pièce et donc contrairement aux grandes usines dans lesquelles les salariés vivent dans des dortoirs individuels, donc là on peut embaucher un couple et c'est le couple en fait qui travaille mais on remet l'argent au mari. Donc ça, c'est une pratique qui est possible dans ces villages urbains. Mais je voulais quand même revenir sur la question de Chine parce que pour moi, cette entreprise signale une régression du droit du travail en Chine. Et je voudrais essayer d'éclaircir pourquoi. Revenons un peu à ce village dont on parle et dont le rapport parle, Kangle. Je l'ai visité dans les années 2010-2012 et c'était très intéressant parce que il y a au milieu du village une place et avec une sorte de bourse de travail. Et les salariés qui cherchent à être embauchés vont sur cette place et il y a des représentants de ces ateliers avec le vêtement qu'on va devoir confectionner dans les 2-3 jours qui viennent. Il leur manque des ouvriers. Et j'ai assisté à des négociations entre les ouvriers et les chefs d'atelier, les ouvriers essayant d'évaluer la difficulté du travail par rapport à leur habileté propre, la rapidité avec laquelle ils pouvaient le faire, et en fonction du prix à la pièce. Et il y avait une véritable négociation du prix à la pièce. Et une possibilité pour ces salariés, tout en étant en dehors de tout système, pas de protection sociale, on reviendra là-dessus, pas de contrat, etc. Mais il y a une possibilité de négociation. Et je dirais que quelquefois, les responsables d'atelier, pour fidéliser les meilleurs ouvriers, pouvaient même adopter une attitude que nous appellerions ici paternaliste. Ça veut dire, voilà, leur octroyer des jours de congé pour aller voir la famille alors que c'était pas prévu, etc. Ce qui se passe avec Chine, qui est effectivement plutôt une plateforme d'e-commerce, c'est que le mot d'ordre de Chine, qui est une mode extrêmement rapide, avec des nouveautés tous les jours, et donc pas du tout une production de masse, Chine tire parti de l'écosystème de des ateliers, qui sont encore une fois petites commandes, livraison rapide. Mais en créant une sorte de monopole...
Il tue les négociations.
Il tue les négociations possibles. Et donc, moi, j'ai rencontré des responsables d'ateliers qui disaient « J'ai refusé d'être fournisseur de Chine » parce qu'ils disaient, la phrase en chinois, c'était « Ils m'ont rongé jusqu'aux os ». C'est-à-dire, non seulement je faisais une très petite marge, mais j'allais imposer aux travailleurs migrants des prix à la pièce. Il n'y a plus de négociation sur la grande place de Kangle. Et du coup, ça veut dire que les travailleurs migrants qui viennent et qui essaient, effectivement, pendant quelques mois, quelques années, de gagner un peu d'argent... gagnent moins, doivent travailler plus. Et cette petite amélioration de leurs conditions de travail des années 2010, elle est en train de disparaître. Et donc, c'est ça qui est vraiment perturbant. Uniquement consommation extérieure, tirer parti d'une consommation à l'étranger puisque la consommation intérieure a chuté du fait des difficultés économiques en Chine, du fait que l'épargne des foyers a été utilisée pendant le Covid, du fait qu'il y a un chômage croissant en ville et que les classes moyennes deviennent de plus en plus affaiblies. Donc, c'est ça le problème.
Il y a un modèle Chine précis et qui est celui, vous nous dites, d'une régression du droit du travail.
Pour moi, voilà.
Gilles Guilleux, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, je voudrais vous faire réagir à un témoignage recueilli donc par ces ONG dans le fameux rapport dont nous parlons. Une femme qui dit avoir travaillé dès ses 15 ans. Alors, j'ai une question un peu naïve, mais est-ce que le travail des mineurs est courant, très rare, extraordinairement marginal en Chine, Gilles Guilleux?
Quand vous faites des entretiens avec des ouvriers, en particulier dans le textile, en effet, souvent les gens ont quitté le système scolaire à la fin du collège, voire pendant le collège. Donc ils n'ont jamais fait une scolarité complète secondaire. Et pour des raisons économiques, pour des raisons d'inadaptation au système scolaire. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avance Isabelle Thirault. C'est-à-dire que, alors c'est pas tant une régression du droit du travail, parce qu'en fait, ces ateliers familiaux ne font pas appel au droit. C'est une régression des conditions de travail et des conditions, en effet, de négociation du statut de travailleur. Il faut voir aussi que comme ces ateliers sont des ateliers familiaux, il est bien difficile pour un nouveau, enfin familial ou quasi-familial, où on emploie des gens qui viennent du même village, etc., il est bien difficile pour les travailleurs d'être dans un rapport de négociation. Et quand la pression est si forte par le commanditaire, l'entreprise Sihin, effectivement, ça tire les conditions de travail vers le bas.
Franck Marsal, on est d'accord qu'en fait, le code du travail ne s'applique pas, mais pourtant il existe et il est strict en Chine, et on n'est pas du tout dans un fonctionnement normal en un sens.
Mais ça, c'est la réalité aussi de l'économie, et en particulier de l'économie capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a des règles, et puis il y a des zones grises autour de ces règles, et là on est typiquement sur ce cas-là, mais justement, ce qui va être intéressant peut-être, c'est de faire une comparaison avec un autre secteur, qui est le secteur des chauffeurs de VTC. Puisque en Chine, secteur très développé, c'est pas Uber, c'est une société qui s'appelle Didi, qui a commencé à faire travailler des chauffeurs sur le mode Uber, c'est-à-dire justement à la prestation, et c'est ce qu'on voit ici en France aussi, hein, puisque les chauffeurs Uber sont à la prestation, commandés par la plateforme, sans marge de négociation, c'est exactement ce qu'on vient de décrire, qui a donné lieu à des luttes et des revendications de ces chauffeurs. Et le gouvernement chinois a passé une loi en 2021 qui fait que si un chauffeur réalise plus de 50% de son revenu avec la société Didi, il a droit à un contrat de travail. Donc il re-rentre dans le système du travail, ce qui n'est pas le cas en France, hein, puisque encore quelques semaines, là, la Cour de cassation a rejeté la requalification du contrat de chauffeur Uber.
Mais dans ce cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il est possible de réintégrer le droit du travail normal, mais que ce n'est pas le cas des ateliers de Chine.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un processus politique, et ça, il est tout à fait symptomatique de la manière... Chaque peuple construit aussi son développement avec sa culture et son histoire. Et nous, une formule, donc Jean Julien, qui est un des co-auteurs du livre, qui connaît très très bien la Chine, il a une formule, il dit « Le développement de la Chine, c'est traverser la rivière en tâtant les pierres ». Voilà, et je trouve que cette formule est très intéressante.
C'était une formule de Deng Xiaoping.
Voilà.
Et vous nous avez dit, vous Isabelle Thirault, que la loi était un horizon en Chine. Ça rejoint un peu ce que dit
voilà,
par
donc
ça.
Il y a à la fois du développement, ça va un peu trop loin, on recadre et puis on avance. Et il y a cette dynamique-là. Qui est pas absurde et qui est peut-être surprenante un petit peu pour nous Français. On a du mal peut-être à voir les choses comme ça.
Isabelle Thirault, entre la loi et son application, un horizon les sépare.
Oui, en fait, effectivement, quand je parlais du droit et du travail local, c'est presque les usages locaux parce qu'il y a un droit normatif, il y a des normes qui se sont mises en place. Mais ces normes sont très éloignées de ce que promeut le droit du travail officiel en Chine. Mais le droit du travail officiel en Chine... il est injuste. Et ces travailleurs migrants, c'est-à-dire que les travailleurs migrants qui viennent travailler à Kangle, ils ne souhaitent pas, ils ne peuvent pas profiter des protections sociales. C'est-à-dire...
ils n'ont pas le passeport qui leur donne droit à la...
C'est-à-dire que les droits qu'ils vont acquérir, il faudrait qu'ils travaillent 15 ans dans ce village pour acquérir des droits à une pension de retraite. Mais la pension de retraite en Chine, elle n'est pas du même montant selon là où vous habitez. C'est-à-dire que le jour où ils quittent canton et ce village, et qu'ils rentrent dans leur village, leur pension de retraite, ce sera 100-200 yuan. Donc comme leur droit acquis sur place, et ça c'est malheureusement dans le droit du travail chinois, cette dualité entre travailleurs ruraux et urbains, les travailleurs migrants disent « mais moi, même si je contribue à hauteur normalement de 8% de mon salaire aujourd'hui pour une pension de retraite, j'aurai 120 ou 150 yuan demain. Dans... » Donc mon intérêt, c'est de venir travailler quelques années, de travailler le plus possible, d'y perdre effectivement ma santé, de ne pas avoir accès à des soins localement, puisque je n'ai pas droit, comme les urbains, comme les cantonais, à avoir accès aux mêmes droits, donc à effectivement y perdre ma santé, mais au moins pouvoir avoir un petit capital, aider éventuellement à l'éducation du plus jeune frère, au mariage du frère, ou à construire une maison au bourg voisin. Le grand problème, c'est
une retraite par capitalisation, quoi. Ouais, en train de se construire pour ces ouvriers textiles dans la Chine communiste.
Mais je veux dire, il y a là des problèmes donc, que nous n'avons pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qui s'annoncent à l'orée des 10-15 années à venir en Chine, qui sont que ces travailleurs migrants qui sont venus maintenant depuis 30 ans et qui ont 60-70 ans, qui part dans les villages. Donc, quelquefois, les villages ont vu l'expropriation des terres, ne vont même plus avoir un lopin de terre pour vivre, mais n'ont pas pu capitaliser beaucoup, ou bien ont capitalisé en construisant une maison pour le fils, et le fils propose au père de rester au village, mais sans beaucoup de revenus et sans beaucoup de capital. Donc il y a vraiment une pauvreté à venir très importante de ces travailleurs migrants, et pour la prévenir, les garçons et les filles aujourd'hui essaient de venir travailler, encore qu'une fois, quelques mois, quelques années.
Une vie de chien maintenant dans l'espoir d'une vie meilleure plus tard, qui n'est pas du tout garantie, on comprend. Vous avez aussi évoqué des questions de santé qui sont importantes dans ces ateliers textiles avec beaucoup de fibres synthétiques et des solvants et plein de problèmes respiratoires à la clé. Je voudrais qu'on dise, Gilles Guilleux, si vous voulez bien, un mot du coton ouïghour, puisque c'est mentionné, c'est assez intéressant dans le rapport des deux ONG. Donc la région du Xinjiang qui est à l'ouest du pays est majoritairement peuplée de ouïghours, une population musulmane de Chine, donc qui subit, on le sait, hein, depuis des années, des violations massives des droits humains, travail forcé, internement de masse, surveillance généralisé. Et c'est là qu'est produit 80% du coton chinois. Alors, on sait que les habits commercialisés sur Chine sont très principalement en polyester, je crois que c'est 73%, dit le rapport. Mais les ONG ont relevé un accord d'association entre Chine, une grande plateforme textile qui est en train de se monter, et de l'objectif est d'intégrer à la production cantonaise le coton du Xinjiang. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est crédible, comme l'assure la marque Chine, qu'aucun brin de coton issu des camps de travail ouïghour se retrouve dans ces vêtements? Ou est-ce qu'il faut vraiment croire ces ONG qui, du coup, n'ont pas réussi à prouver le lien direct, mais nous alertent sur cet accord commercial?
Non, je ne peux pas me répondre sur la question de savoir est-ce que cette proposition de Chine est crédible. Simplement, ce qui est sûr, c'est que à l'heure qu'il est, les productions de Chine et les productions de la fast fashion en général sont, comme vous venez de le dire, des productions qui recourent intensément à des fibres synthétiques et qui ont la tragédie, c'est que ces vêtements ne sont pas recyclables. Parce que la Chine est non seulement le premier exportateur de vêtements au monde, mais c'est aussi le premier exportateur de vêtements usagés, hein, qui finissent dans les pays africains, dans les lits des rivières et sur les plages d'un certain nombre de pays africains. Donc voilà. Après, s'il met plus de coton dans ses vêtements, sans doute faut-il s'en féliciter. Après, il faut évidemment s'interroger sur l'origine de ce coton. Mais quelle est la marge de manœuvre dont nous disposons pour discriminer les produits de Chine? Il y a un acteur dont on n'a pas parlé pour le moment. C'est la question des consommateurs. Les consommateurs chinois ou les consommateurs internationaux, tant que ces consommateurs achèteront des vêtements qui sont vendus 3 euros, 5 euros, 10 euros, et qu'il y aura un appétit apparemment sans limite, parce que la croissance de la consommation de ces produits est spectaculaire. Et non seulement les produits sont plus nombreux, mais enfin, ils engorgent les aéroports, ils engorgent la Poste. Hein, je vous signale que Chine est parmi les premiers clients
des
de la
colis
Poste.
De la Poste, oui. Et on n'en a pas parlé des consommateurs, mais ils nous écoutent. Cela dit, je voudrais quand même vous entendre, Isabelle Thirault, sur cette question du coton ouïghour, parce que c'est, il faut quand même un peu faire un sort à cette question dans la mesure du possible.
Non, mais je pense que ce qu'a dit Gilles Guilleux est tout à fait raisonnable. C'est-à-dire que quel moyen avons-nous ? Il est fort possible, il est fort probable. Donc, dans le cas de cette grande plateforme Guangqing qui se crée et qui et à laquelle est associée Shein, que du coton venu du Xinjiang, enfin, dire que aucun coton venu du Xinjiang ne parviendra, ne sera traité et utilisé par cette plateforme me semble difficile à admettre. Voilà, même si nous n'avons pas les moyens de savoir quels seraient les volumes de coton venu du Xinjiang. Voilà, mais écarter complètement cette possibilité me semble difficile.
Franck Marsal, et puis peut-être vous pourriez réagir sur cette question de fibres plus ou enfin synthétiques. Peut-être qu'il y a de l'innovation là-bas.
Si alors, il y a de l'innovation. Je voulais revenir quand même sur la question du Xinjiang et des Ouïghours, parce que dans le rapport en général, moi, ce que je reproche un petit peu au rapport donc d'Action Aid, c'est dans un travail journalistique ou scientifique, on est censé entendre les différentes parties. Et je trouve que le rapport se fonde sur assez peu de choses et surtout, il n'y a aucune place qui est donnée pour dire quel est le point de vue des autorités chinoises, quel est le point de vue de l'inspection du travail, quel est le point de vue de la municipalité, quel est le point de vue de la fédération officielle des syndicats chinois, etc. etc. Et je pense qu'on a la même difficulté sur le Xinjiang, sur lequel on a un gros, gros écart entre ce qui est véhiculé par quelques ONG, mais qui remonte souvent à une personne, hein, qui est le théologien Adrian Zen, et puis le point de vue des autorités chinoises. Moi, j'ai pas envie de développer cette question qui mériterait une longue émission, mais quand même, les autorités chinoises avancent la perspective du développement du Xinjiang. Il faut savoir que c'est une des rares régions avec le Tibet où la politique un enfant par famille n'a pas été appliquée. Donc les familles avaient le droit de faire autant d'enfants qu'elles le souhaitaient. Et c'est une région effectivement pauvre, très éloignée des zones les plus développées. C'est la plus éloignée. Et la Chine avance une perspective de développement. Je ne suis pas sûr qu'il soit l'intérêt des Ouïghours de se retrouver sans travail, sans perspective économique.
Ah, mais la question du développement du Xinjiang ne passe pas forcément par des camps de travail non plus et de l'internement qui est quand même bien documenté. Isabelle Thirault, vous allez régulièrement
oui,
en Chine.
Oui, c'est-à-dire que, en tout cas, nous avons des témoignages nombreux. Vous avez évoqué Adrian Zenz, mais il y a eu un tribunal de la cause ouïghour qui a entendu de nombreux témoignages. Nous avons malheureusement maintenant un nombre important de témoignages et qui font que, quelquefois je suis un peu mal à l'aise avec cet appel au développement économique parce que c'est un peu une sorte de slogan du gouvernement chinois qui de dire « Taisez-vous, nous allons vous aider à vous développer économiquement et au nom du développement économique et même vis-à-vis de sa propre population. » Donc, c'est vraiment quelque chose et donc, je pense que nous avons tout à fait raison de nous interroger sur l'origine du coton et peut-être revenir deux minutes sur la question du gaspillage et des consommateurs que vous avez commencé à évoquer. Elle est vraiment tout à fait importante. J'ai lu récemment un entretien du responsable, ce monsieur responsable de Shein, qui disait « Nous sommes une société vertueuse puisque nous produisons en tellement petite quantité, alors massivement bien sûr, mais avec tellement de nouveaux modèles et aucun modèle n'est obsolète. Nous luttons contre le gaspillage en n'ayant pas de stock en Chine. Mais en fait, le gaspillage, il est déplacé vers les consommateurs et il est déplacé vers l'étranger. Donc, il y a bien sûr gaspillage.
Et moi, je reviens juste très brièvement sur cette question du rapport. Il aurait pu être très intéressant et il serait plus large et tout à fait utile d'avoir des points de vue des officiels, mais ils ont quand même infiltré une membre de l'ONG pendant 2 ans dans des ateliers. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas étayé. Il aurait pu être plus développé et on aurait tous appris encore plus, mais il est quand même assez solide.
C'est une méthodologie scientifique que d'avoir quand même le respect des différences de points de vue et des angles d'éclairage et de ne pas en avoir qu'un seul. Je
pense quand on fait de l'investigation, on dit ce qu'on trouve et puis après on en débat avec des spécialistes lors d'une émission. Il nous reste malheureusement pas le temps d'aller plus loin, l'émission arrive à sa fin, mais on a compris que des conditions de travail... un dernier mot, c'est que Shein est quand même un bon payeur, et ça je voudrais que vous nous disiez très très brièvement, en 30 secondes Isabelle Thirault, que oui, les conditions de travail sont très difficiles, mais pour autant, on a son salaire et c'est énorme.
en fait, même pour les ateliers, c'est-à-dire qu'ils payent les ateliers tous les 15 jours, avec une grande régularité. Les ateliers disent, moi, ça me permet d'avoir du liquide, tout simplement, ça me permet d'avoir une comptabilité. Mais les ateliers gagnent moins d'argent que lorsqu'il n'y avait pas Chine, parce que leur marge est plus faible. Ils survivent, ils ne font pas faillite.
Mais je crois que dans l'industrie du jouet, parfois on attend 6 mois son salaire, et ce qui est encore pire. Merci à tous les trois, Isabelle Thiraud, Gilles Guilleux et Franck Marsal. Et à ceux qui s'intéressent aux vêtements et à la mode, je recommande la série estivale d'Ivan Jacob, Les vêtements qui ont changé le monde. C'est sur l'application France Culture et le site Radio France, où c'est l'inverse. En tout cas, un grand merci aussi à l'équipe de Questions du Soir, Jules Crétois, Louise Cognard, Victoria Géraud-Velmont, Alice Chavaran et Maudie Aïche, Fan Montet à la réalisation, Grégory Wallon à la technique.